À 6h, votre journal est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. La COP26 sera-t-elle celle de la fin du charbon? C'est en tout cas le souhait de la présidence britannique qui organise ce sommet sur le climat qui sera lancé dimanche à Glasgow en Écosse. Un rendez-vous à suivre dès cette semaine sur Europe 1. 15 jours pour la planète secouée par une crise énergétique sans précédent.
Et dans toute la France, les prix du gaz et de l'électricité flambent. Une hausse brutale qui menace la survie des fournisseurs d'énergie. En Allemagne comme au Royaume-Uni, certains ont déjà mis la clé sous la porte.
Maud Descamps, vous êtes la spécialiste énergie d'Europe 1. Chez nous, le distributeur Leclerc a par exemple mis fin à ses contrats électricité. Maud, les autres opérateurs réduisent aussi la voilure le temps que les prix redescendent.
Oui, je vais vous donner un chiffre pour bien comprendre l'ampleur de ce phénomène. Il y a aujourd'hui 2 fois moins d'offres de gaz et d'électricité que cet été. 2 fois moins. Il y en avait une centaine en électricité, il en reste 50, il y en avait une soixantaine pour le gaz, il en reste moins de 30. En fait, c'est la panique chez les fournisseurs qui ont peur de ne plus être rentables. Ils réduisent le nombre d'offres, mais aussi certains revoient leurs tarifs, comme l'observe Caroline Keller du médiateur de l'énergie.
En gaz, comme les prix changent le premier du mois, donc on a beaucoup de changements le premier du mois, mais ensuite, ça ne bouge plus. Or là, on a certains fournisseurs qui ont changé leur prix 3 fois. Donc ça donne l'impression qu'effectivement, au vu des conditions de marché, les fournisseurs réfléchissent et puis changent leur stratégie et modifient leur prix beaucoup.
Il faut donc être très vigilant si vous avez un contrat qui garantit un tarif sur une certaine durée, votre fournisseur ne peut pas modifier ses prix. En revanche, pour les autres types de contrats, il en a tout à fait le droit. Il doit simplement vous prévenir un mois avant.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Exploration et non exploitation, c'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a dévoilé ses ambitions pour les fonds marins.
Un intérêt pour les océans évoqué par le chef de l'État lors de la présentation du plan France 2030 il y a 2 semaines. Le Grand Bleu, un levier extraordinaire d'innovation pour Emmanuel Macron. Une curiosité qui inquiète toutefois les ONG alors que les fonds marins regorgent de métaux rares convoités par les États. Zoé Pallier.
95% des fonds marins inexplorés et l'espoir donc de découvrir de nouvelles espèces dans les prochaines décennies pour Françoise Gaille. Elle est biologiste spécialiste des écosystèmes océaniques.
Tout l'enjeu, c'est qu'on connaisse pour pouvoir bien protéger. On peut très bien aller voir avec un certain nombre d'approches qui sont non intrusive pour la biodiversité marine. Donc je suis pour explorer.
Mais pour la chercheuse, il faut encadrer ces explorations, car les océans, c'est aussi du cobalt, du nickel, du cuivre ou encore de l'or. Et cela attise l'appétit des grandes puissances et la méfiance d'Alexis Rosenfeld. Il est photographe spécialiste des fonds marins.
L'exploitation et l'exploration, ce sont 2 choses très différentes. Déstabiliser un équilibre, exploiter à grande profondeur des richesses de différents métaux ou minéraux, c'est-à-dire qu'on serait capable d'aller détruire des espèces qu'on ne connaît pas encore.
Inquiétude partagée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'ONG demande un moratoire sur l'exploitation minière des océans.
Zoé Pallier, les océans, un univers qui aiguise donc l'intérêt de la France, qui est aussi la deuxième puissance maritime mondiale.
Grâce notamment à la Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique, un territoire français avec un statut particulier. Pour la 3e fois depuis 2018, les habitants doivent d'ailleurs se prononcer sur l'indépendance de leur archipel.
Lors des 2 dernières consultations, les électeurs avaient choisi le maintien en France. Prochain scrutin le 12 décembre, un appel au boycott a été lancé par le mouvement historique de la lutte kanak. Il demande à l'État de reporter la date du vote en 2022 à cause de l'épidémie de Covid. Les précisions de Caroline Baudry.
Plus de 250 morts depuis début septembre, des funérailles traditionnelles kanak bouleversées par le Covid. Dans ces conditions, impossible de voter le 12 décembre prochain, explique Jean Crenier, porte-parole du FLNKS, le principal parti indépendantiste.
La population est très choquée. Les gens vont passer au moins 15 jours ou 3 semaines à finir leur deuil. Et puis chez nous, ça prend du temps. En attendant, on ne pourra pas faire la campagne de terrain. Il nous manque 5000 voix. Il faut que cette campagne, elle soit chirurgicale.
S'il a lieu le 12 décembre, nous contesterons certainement le résultat du référendum, dit ce leader indépendantiste. En face, les loyalistes dénoncent l'instrumentalisation de la crise sanitaire. Sonia Baquet, c'est leur chef de file au micro de nos confrères de RRB.
Je rappelle que ce sont les indépendantistes qui ont demandé ce troisième référendum. La situation sanitaire s'améliore de jour en jour. Le ministre a été très clair sur le fait que ce référendum aurait lieu s'il n'y avait pas de perte de contrôle sur la situation sanitaire.
Les loyalistes qui annoncent relancer leur campagne suspendue à cause du Covid. Le commissaire de la République, équivalent du préfet sur place, se contente, je cite, de l'organiser pour le 12 décembre.
Caroline Baudry a noté que 2000 gendarmes ont été envoyés dans l'archipel pour faire face à d'éventuelles tensions lors du scrutin.
Si vous avez la chance de profiter des vacances de la Toussaint, Europe 1 vous propose de découvrir cette exposition consacrée au couple Albers.
Annie et Joseph Albers, mis à l'honneur au Musée d'art moderne de Paris, une première en France. L'occasion de découvrir ce duo allemand qui avait, vous allez l'entendre, une conception très particulière de l'art. Tissage et peinture déclinées en 350 œuvres, le reportage de Marie Jiquel.
Le couple allemand va beaucoup s'inspirer de son voyage en Amérique, notamment des maisons mexicaines transposées sur la toile en carré de couleur flashy pour Joseph et en tissage au fil doré pour Annie, Julia Garrimore, la conservatrice en chef du Musée d'art moderne de Paris.
Ce que Joseph fait avec les moyens de la peinture, elle le fait avec... Donc son métier à tisser.
L'art abstrait du couple Albers doit s'appréhender avec un regard vierge. Annie et Joseph cherchent à réveiller l'enfant qui sommeille en nous.
C'est une conception de l'art qui recherche en quelque sorte une créativité pure et qui ne se heurte pas à toutes les habitudes visuelles qu'on a pu acquérir.
Cette vision similaire de l'art, cette correspondance artistique et enfin l'amour animeront le couple jusqu'à la mort de Joseph en 1976.
Une exposition est en partenariat avec Europe 1 à découvrir jusqu'au 9 janvier au Musée d'art moderne de Paris.
Et c'était le journal de Romain Oquet. Merci beaucoup.